Nous relisons ce matin, car nous ne faisons jamais que relire, l'un des textes qui nous sont proposés pour ce temps de carême dans l'Évangile selon Jean. Au tout début de l'Évangile, nous abandonnons un peu l'Évangile de Marc pour quelque temps, mais nous le retrouverons d'ici peu. Jean chapitre 2, les versets 13 à 25. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus monta donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple, avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « La passion que j'ai pour ta maison me consumera. » Les autorités juives lui demandèrent, « Quel signe extraordinaire peux-tu nous montrer pour avoir le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Plus tard, quand Jésus ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Cet épisode est l'épisode dit de la purification du temple. Et si vous regardez dans vos Bibles, vous verrez que ce n'est pas une exclusivité de l'apôtre Jean, puisque les 3 autres évangiles en parlent, mais pas au même endroit, justement. Si vous regardez dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ce récit intervient, mais plutôt vers la fin, un peu avant la Passion. C'est-à-dire qu'il est une sorte de dénouement, déjà, avant le drame qui se noue et qui se terminera, comme vous le savez. La colère énergique de Jésus a bien lieu aussi dans ces 3 passages, mais elle a, comme elle intervient vers la fin des évangiles, quelque chose de terminal, un coup de torchon salutaire pour débarrasser la table avant que les nombreux opposants au ministère de Jésus se liguent définitivement contre lui et finissent par avoir sa vie. Mais chez Jean, c'est le contraire. La purification du temple, si vraiment il faut appeler cet épisode comme cela, est le second signe opéré par Jésus tout de suite après les noces de Cana, c'est-à-dire l'une des toutes premières choses qu'il fait dans son ministère. Ici, donc, ce n'est pas une sorte d'envoi ou de testament avant de quitter ses disciples, c'est plutôt un programme destiné à marquer la suite de son empreinte. Pourtant, même si cet épisode est connu, il reste surprenant, quel que soit le lieu où nous le trouvons dans l'un ou l'autre des récits évangéliques. On prête à Jésus la plupart du temps un caractère calme, un tempérament posé, celui d'un maître patient qui explique sans relâche à ses disciples ce qu'ils ont besoin de savoir, même s'il lui arrive de temps en temps de s'agacer de leur incompréhension. Le geste et les paroles ici sont très violents, d'une violence sûrement équivalente à une profanation insupportable. On imagine que puisque nous avons un motif ou le motif apparent, que le geste est à la hauteur de ce qui se passe. Et ce qui est reproché, c'est, dans les paroles de Jésus en tout cas, une confusion entre culte et trafic. Mais si on laisse de côté cette histoire de profanation, de restauration de la pureté, de côté, pendant un moment au moins, Parce qu'il n'est pas forcément question de cela, ou pas que de cela, dans ce passage. L'attitude de Jésus paraît tout de même très dure, comme s'il semblait avoir oublié que les hommes ont besoin d'un cadre, un cadre culturel, cultuel, pour accompagner leur spiritualité, ce qu'ils ont à dire à celui qui est au-dessus d'eux. Il faut toutes ces choses. Les institutions sont nécessaires pour développer tout cela, des formes d'art, des pratiques, des habitudes, des coutumes s'y associent, et même un certain nombre de personnes en vivent aussi, puisqu'elles assument un service. On peut même les loger gratuitement. Pourquoi dès lors en faire nécessairement un problème? Les colères religieuses, après tout, font assez de dégâts comme cela tout au long des siècles. Faut-il vraiment en faire un programme ou même un modèle? D'un coup de fouet, Jésus évacue ce qui semble, d'après lui, dénaturer ce temple. Et d'une certaine manière, c'est vrai, il ne faut pas l'évacuer complètement. C'est comme si la rencontre que vous venez y faire, rencontrer Dieu, on le faisait dans la tente dite de la rencontre quand Israël était au désert, on le faisait dans cet endroit qui ne bougeait plus, de la même manière. C'est comme si cette rencontre était gênée, voire empêchée, par la seule force de ces petits à côté, de ce petit commerce qui se déroulait dans les coursives, dans les couloirs, à l'écart. Comment se fait-il que Jésus soit en général si avare d'agressivité et que la seule occasion de la manifester, chez Jean en tout cas, soit au tout début de son ministère et qu'il s'en prenne spécifiquement au temple? Laissons de côté donc la question de la pureté, même si les sous-titres de nos Bibles annoncent régulièrement la purification du temple. Les précautions nécessaires, après tout, avaient déjà été prises quant à ce commerce nécessaire. Nous savons que la monnaie romaine n'y avait pas cours, elle avait cours partout sauf là. C'était une concession de l'occupant. Et nous savons aussi que ce commerce, toutes les transactions, se tenaient en dehors du lieu de culte proprement dit. Donc on ne peut pas vraiment parler de profanation. En tout cas, elle n'est pas pire que ce que ce peuple fait depuis des siècles, et ce qui est toléré, inscrit dans les habitudes et dans les coutumes. Quant aux sacrifices eux-mêmes, puisque c'est à cela que servaient les animaux qui étaient vendus, c'était une pratique aussi admise, bien ancrée dans les coutumes, et conforme à la loi. En plus, ce n'est ni une désobéissance, ni une innovation malheureuse, donc ça ne peut pas être une profanation. C'est plutôt nous qui sommes choqués, puisque c'est l'idée même de sacrifice religieux qui nous semble au mieux dépassée, au pire incompréhensible. Pourquoi faire ce genre de geste? Jésus n'est pas non plus en train de s'en prendre à des traditions anciennes pour y substituer autre chose, ou bien pour le simple plaisir de critiquer la tradition, pour choquer le bourgeois ou le bon peuple, comme on dit. Il faut plutôt considérer la période à laquelle se déroule cet événement. Jean le précise tout de suite, c'est la Pâque qui approche. Cette fête est la commémoration de la libération d'Égypte, hein, ne l'oublions pas. C'est un événement fondateur pour le peuple hébreu. Mais si le pèlerinage est une invitation faite à l'ensemble d'un peuple, chacun est individuellement appelé à se sentir concerné par cette libération, comme si c'était une affaire personnelle entre Dieu et chaque personne libérée. Dieu est fêté à Pâques comme créateur de la liberté pour tous et pour chacun, et non ou non seulement comme le créateur du monde, un créateur abstrait et lointain. Il est créateur de quelque chose de bien précis dont nous vivons. Et pourtant, si on se réfère à la Genèse, il faut tout de même rappeler que la première action de Dieu consiste à partir d'un chaos existant. Il y a un bazar au moment où Dieu est là. Il faut partir d'un chaos existant. La première intervention divine n'est pas en premier lieu une mise en ordre, un agencement, un rangement qui consisterait tout d'abord et seulement à rendre le monde habitable ou structuré. Le premier moment du monde, c'est surtout un grand bazar, un chaos qui est l'ensemble de toutes les potentialités. Toutes les possibilités sont là, rien n'est encore sorti de ce chaos. C'est un véritable trésor et pas un malheur. le moment où tout est possible, ouvert, le moment où toutes les forces en présence sont à disposition. C'est ça aussi un chaos. C'est peut-être ce que Jésus, d'une certaine manière, essaie aussi de faire ici. Jésus n'est pas ou ne serait pas uniquement en train de faire du rangement à coups de fouet. Peut-être qu'il retourne d'une certaine manière aux origines, pas aux origines du monde bien sûr, mais aux origines de ce qu'est vraiment ce lieu de rencontre. Ce pourquoi il était destiné, ce pourquoi il était construit, dédicacé, fréquenté si longtemps par tous les pèlerins. Si Jésus ramène non pas l'ordre, mais du désordre dans le temple, c'est sans doute parce qu'ils ont enfermé, toutes ces générations ont enfermé Dieu entre quatre murs, en pensant que, très sincèrement d'ailleurs, disposer de lui, et aussi sans doute pour se rassurer. Jésus rouvre à coups de fouet ce temple pour que le Dieu qui y est enfermé soit de nouveau libre d'intervenir à sa guise, ce que nous avons peut-être oublié, ce qu'eux avaient oublié, ce que nous oublions régulièrement. Jésus dérange ce temple, non pas à cause de ces cérémonies qui sont encore une fois toutes conformes au protocole, du moins dans la forme. Il dérange seulement la certitude d'avoir fait l'essentiel en accomplissant mécaniquement, formellement ses devoirs religieux. C'est ça qui doit disparaître, et énergiquement, à coups de fouet. Notre attachement, nos rencontres dans ces lieux où nous venons rencontrer Dieu doivent être faites de sentiments partagés. Ça n'a rien à voir avec des obligations, quelles qu'elles soient. Cette manière de se comporter n'est pas propre aux contemporains de Jésus, puisque nous reprenons, nous reproduisons, nous, ces mêmes réflexes. Toutes les générations de croyants la connaissent, et les hommes ont tendance à considérer qu'il suffit de satisfaire à quelques obligations pour être en règle, au moins avec sa conscience, et peut-être avec Dieu s'il n'est pas trop occupé. Si Jésus radicalise sa position dès le début de son évangile, encore une fois, pas à la fin, après avoir fait et dit l'essentiel, c'est avant de commencer son ministère qu'il le fait, c'est bien pour donner le ton. Mais il n'innove pas pour l'instant, les prophètes avant lui avaient fait exactement la même chose. « Je hais vos sacrifices », avait dit Ésaïe, et Jérémie affirmait que Dieu préférait la circoncision du cœur à celle de la chair. Ce qui, pour Jésus, est inacceptable, c'est bien aussi dans le droit fil de ces prophètes, de ce discours prophétique, que Dieu soit pris au piège de sa propre loi, ou pire, de protocole. Si Jésus bouscule tout et préconise un changement radical, ce n'est pas parce que Dieu a changé. Ce n'est pas parce que le Dieu de l'Ancien Testament serait différent de celui du Nouveau, mais c'est pour que les hommes eux-mêmes changent, qu'ils en aient toutes les raisons, et peut-être aussi, en revenant à un chaos originel, qu'ils en aient toutes les potentialités. Qu'ils décident de changer en se disant « rien ne m'est interdit, rien ne vient m'empêcher de faire jaillir de cette rencontre quelque chose de nouveau, enfin nouveau ». Pour que ce changement qu'il préconise puisse avoir lieu, Jésus propose de détruire le temple de pierre. Nous avons mis 46 ans à le construire et toi tu le rebâtirais en 3 jours. Vous voyez l'incompréhension entre ce qui est en train de se jouer ici. Ceux qui parlent à Jésus ce jour-là n'ont pas compris, et puis ceux qui sont venus après, pendant très longtemps, n'ont toujours pas compris que Dieu voulait être en relation avec chacun d'entre eux. Et cette relation est dynamique par nature, on ne l'enferme dans rien. Elle suppose que tout soit libre, à disposition, comme dans un chaos initial d'où peut jaillir à peu près tout, toutes les possibilités. Comme dans un chaos d'où peut jaillir un monde nouveau ou un monde renouvelé. Revenir à l'origine, ce n'est pas chercher un âge d'or, s'y enfermer parce qu'il est confortable. C'est chercher à reproduire chaque fois que c'est nécessaire un jaillissement initial. C'est ça, retrouver une origine. Eh bien, Jésus, en supprimant les rites du temple, en promettant sa destruction d'une certaine manière, ne les a pas remplacés par d'autres rites que nous appelons des sacrements ou des cérémonies, peu importe le nom qu'on leur donne. Jésus n'a pas inventé de nouveaux rites, ce sont les églises qui s'en sont chargées. Il a simplement ordonné deux choses, baptiser et enseigner, et puis, à divers endroits, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a rien dit d'autre que ça. Il n'y a rien dans ces gestes simples qui nous conduisent à penser que nous disposons de Dieu. Nous disposons seulement d'un moyen très simple de revenir à chaque fois que nous partageons le pain et le vin, par exemple, mais à chaque fois aussi que nous nous réunissons ici, dans la tente de la rencontre, au fond nos temples devraient s'appeler comme ça, nous disposons d'un moyen très simple de revenir à un chaos initial, la possibilité d'un jaillissement à nouveau. C'est dans ces moments-là qu'existe le seul temple du corps du Christ, aussi immatériel qu'inusable, aussi fluide qu'indestructible. Amen.